Merci beaucoup, Randy. Donc, moi, je vais vous parler d'une affaire que vous êtes sans doute tout à fait, enfin, vous connaissez sans doute très bien, ou en tous les cas, dont vous avez entendu parler, qui est une affaire de 2014, qui a été jugée en 2014, et qui s'appelle SAS, ça ne s'invente pas, contre France, et qui est une affaire portée devant la Cour de Strasbourg en 2011. Contre, ou en tous les cas qui remet en question la loi française votée en 2010 interdisant la dissimulation du visage et qu'on a résumé ou intitulé médiatiquement la loi anti-burqa. Donc je vais un peu utiliser cette phraseologie. Donc l'affaire concerne une femme musulmane née au Pakistan mais de nationalité française qui allègue que l'interdiction de cacher son visage dans les lieux publics imposée de manière générale par la loi française l'empêchait d'utiliser le voile intégral et elle se disait pratiquante portant la burqa et le niqab à cause de sa foi, sa culture et ses convictions personnelles et sans aucune pression familiale, c'est-à-dire de manière complètement volontaire et consentie. Et elle a retenu beaucoup d'articles de la Convention pour faire valoir son droit, le droit à la vie privée, le fait de ne pas être traité de manière inhumaine, le droit à la liberté de religion, le droit d'expression, le droit de réunion, bon, plein de droits, plus, et finalement, ce fameux article 14 sur le droit de ne pas être discriminé. Et elle a donc demandé que la Cour déclare la loi française contraire à ses droits de par la Convention européenne. Alors, pour faire court, je ne vais pas faire court, mais pour résumer, un des grands arguments avancés en France pour l'interdiction de ce vêtement couvrant a été qu'il matérialisait l'inégalité entre les hommes et les femmes. Comme une inégalité revendiquée, expressément revendiquée par une croyance religieuse islamique extrême. Et pour faire court également, comme ça il n'y a pas de suspense, la Cour n'a pas du tout retenu cet argument d'inégalité quand elle a jugé l'affaire, tout en donc ne condamnant pas la France, mais l'argument de l'inégalité n'a pas été retenu. Alors je vais vous présenter l'argument de l'inégalité du point de vue de la France. Ensuite, ce que la Cour avait à disposition dans son arsenal, ses jurisprudences antérieures et également dans les textes disponibles du Conseil de l'Europe, pour voir comment finalement elle a articulé sa décision finale en s'appuyant sur d'autres arguments que celui de l'inégalité. Donc, comme vous le savez, en France, cette loi anti-burqa a été votée après presque 2 ans de débats publics très virulents, des consultations, un rapport parlementaire, un avis du Conseil d'État, un avis de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, et également une résolution qui a précédé la loi, votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale sur l'attachement aux valeurs de la République. Donc la résolution, elle a été votée le 11 mai et elle met vraiment la question de l'égalité à tous ses paragraphes en parlant de pratiques radicales attentatoires à la dignité et à l'égalité entre les hommes et les femmes, disant vouloir souhaiter que la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes soit une priorité des politiques publiques et souhaiter que la lutte contre les discriminations et la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes soit une priorité des politiques publiques. Ensuite, vous avez les commentaires, ou plutôt l'exposé des motifs du projet de loi, qui finalement a été voté à la quasi-unanimité, qui revient encore sur cet argument égalitaire dans son exposé des motifs. Donc cet exposé commence sur les valeurs de la République qui sont le socle du pacte social et qui fondent, je cite, « le respect de la dignité des personnes et de l'égalité entre les hommes et les femmes ». Donc un long développement suit dans cet exposé des motifs sur l'indignité du foulard islamique qui nierait les valeurs républicaines, qui est une violence symbolique extrême, qui n'est pas seulement une atteinte à l'ordre public, mais également une atteinte aux règles essentielles du contrat républicain à l'exigence de civilité minimale. Donc vous voyez que
cet exposé des motifs n'y va pas non plus de main morte. Et la phrase la plus claire de cet exposé est le suivant, je vous le cite. Dans le cas du voile intégral, porté par les seules femmes, cette atteinte à la dignité de la personne va de pair avec la manifestation publique d'un refus ostensible de l'égalité entre les hommes et les femmes dont elle est la traduction. Cette loi est passée, elle a été votée à 335 voix contre une et 3 abstentions pour l'Assemblée nationale et à 246 voix contre une au Sénat. Donc ultra majorité quasi totale. Après cela, le Conseil constitutionnel a déclaré cette loi conforme à notre Constitution en expliquant que la loi permet de déterminer les bornes à la liberté quand celle-ci affecte celle des autres et trouble l'ordre public et qu'enfin la loi est, je cite, « là pour garantir à la femme dans tous les domaines des droits égaux à ceux de l'homme ». Donc pour le Conseil constitutionnel, le législateur français a fait son travail, je le cite, « le législateur a estimé que de telles pratiques » dont la couverture du visage de manière totale par un voile intégral, peuvent constituer un danger pour la sécurité publique et méconnaissent les exigences minimales de la vie en société. Il a également estimé que les femmes dissimulant leur visage, volontairement ou non, se trouvent placées dans une situation d'exclusion et d'infériorité manifestement incompatible avec les principes constitutionnels de liberté et d'égalité. Alors maintenant, du côté du Conseil de l'Europe, on a eu, juste après cette loi, une résolution et une recommandation qui ont été votées. Et ces deux textes ont été d'accord pour pointer le danger de l'inégalité entre hommes et femmes comme croyance imposant un traitement discriminant envers les femmes. Alors, dans l'affirmation de la résolution, je vous cite, « rappelant sa résolution de 2005 sur les femmes et la religion en Europe », l'Assemblée invite l'ensemble des communautés musulmanes à abandonner toute interprétation traditionnelle de l'islam qui nie l'égalité entre les hommes et les femmes et restreint les droits des femmes à la fois au sein de la famille et dans la vie publique. Cependant, ce texte, plus celui de la recommandation que je ne vous lirai pas, n'appelle pas à une interdiction légale générale du voile intégral comme venait de le faire la France. Et ce texte ne considérait pas que l'interdiction générale était vraiment nécessaire. Pourquoi ? Parce que, dit le texte, il est difficile de considérer que cette pratique du port intégral trouble, provoque le désordre public, parce qu'il existait aussi une possibilité que les femmes qui portent ce vêtement le fassent librement, et parce qu'une telle mesure risquait d'exclure encore davantage de l'espace public et du monde professionnel les femmes vêtues de la sorte. Donc, comment la Cour européenne, les juges de la Cour, allaient juger de cette affaire française entre les arguments égalitaires de la loi française et des résolutions du Conseil de l'Europe, mais également le doute très sérieux du Conseil de l'Europe réuni en assemblée parlementaire à faire une loi générale d'interdiction du voile intégral. Et la Cour de Strasbourg a déjà jugé à plusieurs reprises, avant cette affaire SAS, des affaires de voile islamique en utilisant le contenu de l'article 9 sur la liberté de religion et en considérant que le voile islamique pouvait être considéré comme une prescription religieuse et donc être une manifestation légitime, une expression extérieure de la religion, protégée par l'article 9 sur la liberté de religion. En même temps, comme la Convention européenne des droits de l'homme accepte les restrictions aux manifestations extérieures de la religion, la restriction doit être considérée comme nécessaire dans une société démocratique, et à cette condition, la Cour a jugé des affaires de foulard, acceptant la possible restriction, restriction avec 3 critères, la sécurité publique, la protection de l'ordre, de la santé, de la morale publique ou la protection des droits et libertés d'autrui. Et malgré tout ça, la Cour a toujours insisté sur le fait que ces restrictions devaient être interprétées de manière très stricte. Alors, dans l'utilisation du voile islamique simple, l'affaire d'Alab, très connue, la Cour déclare irrecevable la demande d'une enseignante suisse qui s'était convertie à l'islam et qui voulait porter le foulard islamique dans son milieu de travail. La cour a admis que l'interdiction du port du voile était dans ce cas-là une interférence, certes avec sa liberté de religion, mais légitime, parce que l'interdiction servait le but de non pas protéger la liberté de la propre enseignante, mais de garantir la laïcité de l'État et particulièrement de l'éducation publique dont l'enseignante était la représentante. Donc il s'agissait en définitive de protéger l'autonomie des élèves et non celle de l'enseignante. Quelques années plus tard, la Cour a été saisie d'un autre cas d'interdiction du port du foulard islamique. Et dans ce cas-là, c'était une étudiante turque, d'une université turque, qui, par règlement au sein de son université publique, empêche le port du foulard. Et la Cour a conclu que l'ingérence existait bien dans la liberté de l'étudiante, mais que cette ingérence était justifiée parce que l'État interdisait le voile dans les universités pour que ce voile n'ait pas un effet de pression sur les personnes qui s'y trouvaient confortées. Donc on a eu plusieurs autres arrêts sur lesquels je ne reviens pas, mais qui sont tous très intéressants dans la minutie, le scrupule de la Cour à contrebalancer la liberté du port, du foulard, le fait de considérer que le foulard était une manifestation de la liberté religieuse, mais qu'en même temps les États pouvaient en limiter l'expression. Alors maintenant, dans le cas de l'arrêt SAS contre France, la grande chambre du tribunal a abordé pour la première fois la question d'une interdiction générale de l'utilisation du voile intégral. Alors comment la Cour a-t-elle dépatouillé ce cas ? En tout cas, elle l'a fait sans retenir l'argument de l'inégalité manifestée par le foulard intégral tel que la France présentait la question, entre autres. Donc la Cour a constaté qu'il existait une ingérence avec la vie privée et avec les croyances religieuses de la femme musulmane. Donc elle a bien reconnu que c'était une ingérence à sa liberté. En même temps, elle a considéré qu'il n'y avait pas de proportion entre l'interdiction et la question de la sécurité publique alléguée par l'État défendeur. La Cour a rejeté l'argument sécuritaire. Le trouble à l'ordre public n'était pas prouvable. Dans le deuxième argument, protéger les valeurs minimales d'une société ouverte et démocratique, il y avait trois aspects dans cet argument avancé par la France. Le respect de l'égalité entre les hommes et les femmes, le respect de la dignité humaine et le respect pour les normes minimales de vie en commun de la société. Au bout de tout un argumentaire, la Cour a rejeté l'idée que le voile intégral puisse être considéré comme une atteinte à la dignité de la femme. La Cour a rejeté aussi l'argument selon lequel ce voile intégral était une manifestation visible, ostensible, de l'inégalité des femmes associées à ce vêtement. Finalement, la Cour n'a retenu que le dernier argument final de protection des normes minimales de la vie en société et du fait que pour communiquer entre personnes et citoyennes et responsables et protégées par les droits de l'homme, c'est une condition nécessaire que de montrer son visage en public, une condition générique de tolérance, une condition très large de pluralisme social. Mais en l'affaire, vous le voyez, l'argument égalitaire associé à ce vêtement n'a pas été jugé convenable ou complètement logique par la Cour, d'autant que la pratique proposée, ou en tous les cas ici soumise par la femme, était, de son point de vue, complètement volontaire et associée à son propre consentement. Voilà, je vous remercie.
Merci, professeur Chéripon. Question pas facile, une question très complexe. Ouais. Et très différente, effectivement, d'un pays à un autre. C'est dans l'histoire de pays. Aurez-vous une question?
Oui, j'avais une question par rapport à l'extension du port du voile à l'université. Quel est l'argument qui fait autorité de cette non-extension, justement?
Alors, l'argument est celui que je viens de vous dire. C'est que, il est devenu en quelque sorte général, aussi bien dans la jurisprudence française qu'européenne, de considérer que le voile islamique, on va dire simple, pas intégral, mais en tous les cas le voile islamique simple, est une prescription religieuse qui touche les femmes dans la religion musulmane, et que ce faisant, comme l'article 9 ou notre propre système juridique protège la liberté religieuse, ça fait partie, si vous voulez, de l'ensemble des manifestations de l'expression religieuse qui sont couvertes par la protection, par la liberté religieuse. Donc ce faisant, porter un foulard quand on est un étudiant majeur dans la rue ou n'importe où ailleurs ne peut pas être limité pour une cause qui serait celle du trouble de l'ordre public ou du prosélytisme agressif ou de tout ce genre de comportement. Donc la présidence, l'ensemble des présidents de l'université française ont produit un texte confirmant que la liberté de ce port était complète dans le système universitaire public, lequel en France concerne des personnes adultes, majeures, et donc qui sont en possession de leurs moyens intellectuels, moraux, psychiques et spirituels, suffisants pour que cette liberté soit admise. Et le texte est assez long, est assez argumenté en faveur de la. Il fait qu'on ne prend pas de décision, qu'on n'a pas pris de décision volontairement concernant le port du voile dans les universités françaises.
Le trouble est juste.
Pardon ?
Où est-ce qu'on peut trouver ce texte ?
Sur Internet.
Sur le site du.
Ou chercher présidence des universités françaises ou. Ou je ne sais
oui,
pas.
C'est
conférence de présidents. Voilà, merci beaucoup. Voilà.
C'est toute la jurisprudence du Conseil d'État.
Ouais.
En réalité, qui est derrière et qui a dit que il y a un discernement suffisant de l'étudiante parce qu'elle est majeure. Mais il faut bien dissocier, comme l'a fait ma collègue, entre la burqa ou le niqab qui dissimule le visage et puis. Le foulard, le voile, la kippa, etc. C'est très différent. C'est très différent. Et le Conseil d'État, lui, sa jurisprudence traditionnelle, elle concerne pour l'école, elle concerne les signes religieux. En tout cas, c'est encore une autre question. Et.
Mais dans ce conflit SAS, la Cour reconnaît, j'allais dire, la possibilité de considérer ce vêtement comme un vêtement religieux, qui exprime une croyance religieuse et qu'à ce titre, il n'est pas en soi répréhensible ou qui ne porte pas.
Oui, mais elle
la symbolique de l'inégalité ou de la radicalité dangereuse.
Elle n'invite pas la loi non plus.
Non. Mais elle a trouvé un dernier biais.
Donc en réalité,
quand tu analyses tous les arguments, elle conforte la France. Mais c'est vraiment au dernier moment, dans le dernier argument, qui lui permet de considérer que la loi française n'est pas incompatible avec la Convention des droits de l'homme.
Comme dirait un collègue que j'ai fait venir ici la semaine dernière, c'est du ponce pilatise.
Oui,
la Croix a dit, c'est la marge d'appréciation des États. Chaque État fait finalement en fonction de ses valeurs, de ses convictions, de ses ambitions. Il y a quand même à chaque État sa solution dès lors qu'il n'y a pas une atteinte trop fondamentale aux droits et aux libertés.
Monsieur le professeur, si vous me permettez, c'est cette question de définition de l'autonomie là qui se pose dans tous les cas de hard cases, comme on doit décrire ces cas comme des cas difficiles où il y a la question de l'autonomie individuelle qui est en jeu. Le cas finalement de la burqa n'est pas très différent. Peut-être qu'il y a, il y a la même base de réflexion, soit qu'on parle de la burqa, si on parle de la
par exemple, de l'affaire, je me souviens, quand j'étais ici en France, j'ai fait mon doctorat, une lancée des nains. Le lancée des nains, ou quand on parle de
ah oui, le lancée des nains.
Même si les cas sont différents, il y a la même problématique. Est-ce qu'on peut définir l'autonomie d'une façon volontariste
ou par la loi.
Et si on ne définit pas l'autonomie en tant qu'une appréciation de la volonté du sujet, à condition que cette volonté soit authentique, au terme que la loi utilise, donc, quels sont les critères de restriction de cette autonomie? Quel est le dommage porté par les noms, par exemple, qui s'élancent, par la femme qui se prostitue, par la femme qui porte le voile. Donc, même s'il y a une différence par rapport aux circonstances de l'espèce, je pense que la Cour a fait une appréciation ad hoc tout en retenant l'exceptionnalité, les conditions, la définition française du libéralisme.
Dans le cas du lancer de nains et de l'autre. D'autres affaires ou de pratiques sadomasochistes sexuelles. Oui, effectivement, j'allais dire la limite était assez facile entre le consentement et j'allais dire l'indignité du comportement subi malgré le fait qu'on consente à le subir. Donc justement moi je trouve que là sur cette affaire la Cour a travaillé autour de la notion de dignité ou d'indignité de ce vêtement, d'égalité ou d'inégalité de ce vêtement de manière objective, tout en retenant, en insistant sur le fait qu'il retenait aussi la liberté subjective de la jeune femme à porter le voile comme étant l'exercice de sa liberté religieuse. Donc, en fait, les trois choses ont été bien posées, mais la limite que la Cour a accepté de reconnaître, c'est celle d'une vie commune en société. Donc, c'est un critère particulièrement objectif de dire que en public, les hommes et les femmes doivent être visibles et leur visage, qui est comment dire leur passeport social aussi, doit être disponible à la vue de tous. Donc, je pense qu'elle est même allée très loin dans l'objectivité.
Oui, vous avez raison. Elle est allée très loin.
De l'interdiction.
Il y a aussi un autre point très sensible, à mon avis. Il y a cette confusion entre la vie publique et la vie privée. Donc, une fois que je sors de mon appartement et je porte le voile en public, ça c'est un acte public. C'est la signifie que je porte totalement les droits des étudiants à la vie privée quand je fais une manifestation publique. Là, c'est encore un point flou. C'est difficile.
Là, en revanche, je pense que la Cour a compris que c'était un acte public.
C'est un acte public. A priori.